Les rituels saison 4, la suite.
J'essaie de trouver le point d'équilibre entre la disponibilité au réel, à l'inattendu, à ce qui va se produire, et qu'on ne peut pas anticiper. Et en même temps, des choses qui sont de l'ordre d'une structure narrative que je vais quand même mettre en place. Donc, une sorte de cadre de sens, d'image ou de sensation.
À 8h du soir ou 8h du matin, assis par terre ou dans un cahier, devant un café froid ou sur un clavier, comment écrivent-elles ? Comment écrivent-ils ? Avec Les Rituels, un podcast créé pour Cinévox, j'ai voulu interroger les auteurs et les autrices du cinéma belge. Le temps d'un coup de fil à l'ancienne, sans vidéo, sans caméra, ils et elles reviennent sur la place que l'écriture prend dans leur vie et dans leur quotidien. Intrinsèquement, tout ça n'a sûrement aucun sens, mais c'est beau d'en inventer un. Inventer un sens, c'est ce que Claude Schmitt s'évertue et s'amuse à faire au théâtre comme au cinéma depuis une vingtaine d'années. Auteur et metteur en scène de 8 pièces et 5 films, il reçoit en 2019 le prestigieux prix Jean Vigo pour son moyen-métrage Braquet Poitiers. Son dernier film, L'autre Lorenz, dévoilé à la quinzaine des cinéastes de Cannes et sorti en octobre dernier, a remporté le Grand Prix au BRIF, le Festival International du Film de Bruxelles. Avec Claude Schmitt, on a parlé d'écriture spontanée, de soigner la structure tout en laissant advenir le vivant, de théâtre de marionnettes et de films qui naissent dans les rêves. Bonjour Claude.
Bonjour Aurore.
Alors j'ai une première question pour vous. Est-ce que vous écrivez en ce moment ?
Non, je n'écris pas en ce moment. J'aimerais bien, mais je n'ai pas l'occasion de le faire. En fait, je suis assez occupé parce que je suis dans des répétitions de théâtre. Je joue pour quelqu'un d'autre. Et juste avant ça, qu'est-ce que je faisais ? Très bien. Ah oui, je donnais cours à l'INSAS. J'ai fait 4 semaines un séminaire avec des actrices à l'INSAS et des gens de réalisation et d'écriture. Et c'est d'ailleurs assez intéressant parce qu'on a justement travaillé sur le fait de faire un film. Mais c'était un film qui est parti de rien. C'est-à-dire qu'en fait, on avait justement pas de scénario. Et c'était un peu l'objectif de l'exercice, c'était de leur proposer de faire du cinéma un peu comme j'ai eu l'habitude de le faire. Certaines fois, c'est-à-dire en partant de pas grand-chose. Ça peut être la rencontre avec quelqu'un, un territoire, etc. Et donc là, l'idée, c'était de ce projet avec ces étudiants, c'était de se lancer d'une façon ou d'une autre, dans un certain type d'écriture, mais si on peut parler d'écriture, mais une écriture qui se... C'est quelque chose qui s'écrit sur l'instant, quoi. Il n'y a pas de scénario, il y a plutôt des caractères qui vont se dessiner, un lieu, et puis en fait, et une histoire va s'auto-générer pendant qu'on la tourne. Donc c'est une espèce de tournage qui se fait et qui s'écrit en même temps qu'il se tourne, quoi. Et je trouve ça assez intéressant, voilà.
On va sûrement reparler de cette écriture dans l'action, mais en règle générale, est-ce que vous arrivez à mener plusieurs projets en parallèle ou de front, plusieurs écritures, quel que soit le type de l'écriture ?
Oui, en général, oui. En fait, j'étais incapable de le faire jusqu'il y a quelques années. Je ne sais pas pourquoi, ça s'est débloqué totalement. J'ai l'impression que ça fait 10 ans maintenant que je fais, en général, j'ai 2 ou 3 projets en même temps. Oui. Ils sont de nature différente. C'est pas forcément de l'écriture devant un ordinateur. Mais j'aime bien justement avoir plusieurs projets en même temps. Non pas parce que j'ai envie d'être surchargé à tout prix, mais c'est simplement parce que ça me permet de passer de l'un à l'autre, de m'écarter d'un problème pour me rapprocher d'un autre. Et puis quand on revient sur le précédent, il y a des choses qui se sont décantées et ça va mieux. Et j'ai trouvé bizarrement une facilité là-dedans ces derniers temps. Ouais.
Alors, on va revenir un petit peu en arrière. Est-ce que vous vous souvenez de la première fois que vous avez écrit pour vous-même ou pour les autres ?
Mais alors, en fait, toute la question, c'est de savoir qu'est-ce qu'on entend par écrire, parce que déjà, c'est une vaste question. Mais bon, je me rappelle en tout cas que les premières fois où j'ai inventé des choses, on va dire, c'est il y a très longtemps. Je pense que c'était quand j'étais vraiment un petit garçon. J'avais des marionnettes à fil. Enfin, j'ai commencé en fait à avoir une sorte de passion pour ça. Et donc à inventer des histoires à partir de ces marionnettes. Donc, c'est devenu une sorte de... Quand il y avait des anniversaires ou des Noëls, je recevais une marionnette à fil. Et puis donc j'ai une sorte de collection qui s'est étoffée. Et puis j'avais un cousin qui s'appelle Enguerrand, qui existe toujours d'ailleurs, qui était donc, en quelque sorte mon premier scénographe, on peut dire ça comme ça. C'est-à-dire qu'en fait on se retrouvait passer les Noëls ou les vacances de Pâques avec moi, et puis il fabriquait mes décors, on fabriquait des décors, on fabriquait des histoires, on inventait comme ça des spectacles, quoi. Donc pour moi, ça c'est presque les premiers moments en fait où il y a des choses qui ont été inventées, qui ont été écrites d'une certaine façon. Et puis après, j'ai fait que prolonger ce premier geste-là, qui part d'un désir de représenter quelque chose, de raconter quelque chose de façon différente, quoi. Bah, en faisant un film, à un moment, et là, je sais que j'avais écrit, vers mes 15-16 ans, j'avais fait un premier court-métrage en Super 8. Et ça, c'était... je l'avais écrit. Voilà, vraiment écrit au sens... voilà, j'avais écrit un scénario qui devait pas être très bon, mais bon, soit, c'est pas grave. Et puis, j'avais écrit ça, j'avais fait un storyboard, enfin bref, j'avais commencé à faire, à faire ce film. Et puis, j'ai continué ça, encore une fois, puis voilà, en faisant du théâtre, encore un petit film, puis progressivement je suis arrivé à la SAS, etc., etc. Mais je pense que la question de l'écriture, pour moi, c'est une vraie question, enfin, c'est une question importante, mais parce que si, quelque part, la notion d'écriture, pour moi, elle a beaucoup évolué avec le temps. Quand j'ai commencé à faire des spectacles en sortant de la SAS, puisque j'ai commencé à faire du théâtre avant de faire du cinéma, et j'ai commencé en fait j'écrivais vraiment mes spectacles. Dès que j'écrivais véritablement des partitions scéniques, c'est-à-dire en fait des descriptions en fait de l'action avec des dialogues, avec une description de ce qu'on voyait sur le plateau, de comment la lumière allait fonctionner, où est-ce qu'il allait avoir des interventions sonores, etc. De façon très, tout ça était très précis. Et puis donc, quand je me retrouvais confronté avec les acteurs, les actrices, j'essayais d'appliquer en fait cette partition. C'est là qu'en fait les choses commençaient à coincer en réalité, ou à poser question. C'est-à-dire qu'en fait, moi je pense qu'à cette époque-là, j'étais encore un peu jeune, mais j'avais un peu peur peut-être des acteurs, des actrices. Et donc, je voulais qu'on respecte en fait la partition qui était écrite. Et donc, peut-être que j'étais trop proche de cet écrit. J'avais pas encore compris peut-être complètement qu'il fallait à un moment jeter cette espèce de document en fait à la poubelle, parce qu'en fait la réalité allait prendre le pas sur l'écrit. Et voilà, donc ça a créé quelques petits soucis, mais bon, pas extrêmement grave. Mais je me suis rendu compte que, parce que les acteurs à un moment avaient envie de prendre leur liberté, c'est normal. Mais je me suis rendu compte aussi que c'était un peu ennuyant de travailler comme ça, parce que pour finir, au mieux, j'obtenais exactement ce que j'avais écrit. Bon, je dis bien au mieux, hein, parce que souvent c'était en dessous. Et donc au pire, c'était complètement à côté, quoi. Donc à un moment, je me suis rendu compte que c'était pas très intéressant, parce que je me limitais en fait à essayer de reproduire en fait ce qu'il y avait dans mon imaginaire. Donc en fait, il fallait travailler avec les autres. Il fallait que les autres en fait puissent apporter ce qu'ils sont, qu'ils puissent véritablement modifier en fait la partition, le texte, le scénario, je ne sais pas comment on l'appelle, comment on voudra. Et c'était ça qui allait... c'était à cet endroit-là que les choses devenaient intéressantes. C'est là que le vivant s'empare, en fait, d'une idée et que quelque chose, une œuvre réelle, en fait, apparaît. C'est une œuvre collective, puisqu'on travaille à plusieurs, etc., etc. Donc, on n'était plus dans le théâtre de marionnettes. On travaillait donc avec des gens, quoi.
Alors, j'ai justement une question sur vos outils d'écriture. En général, on me parle de l'ordinateur, du clavier, ou d'un stylo ou d'un carnet, mais j'ai le sentiment qu'ici, les outils de votre écriture, c'est peut-être plus les corps ou les décors, ou les voix, les objets. Comment est-ce que vous présenteriez les outils de cette écriture, justement ?
En fait, ça passe par différentes étapes, mais en fait, ce que j'ai compris avec le temps, c'est qu'en gros, moi, le rapport à l'ordinateur... je voulais d'ailleurs préciser un truc, c'est que pendant tout un temps, en fait, je dessinais beaucoup, ce qui est une forme d'écriture, parce que j'aimais ça et je crois que je dessinais pas trop mal. Et à un moment, j'ai même pensé en faire mon métier, enfin, soit bref, mais j'ai bifurqué. Mais pendant tout un moment, j'ai continué à dessiner en préparant des spectacles. Et puis j'ai arrêté complètement, je ne dessine plus. Peut-être que ça me reviendra, mais en tout cas plus dans le cadre de préparation de spectacles ou de films. Pourquoi ? Parce que j'essaie de plus en fait anticiper les choses. J'essaie de ne plus avoir en fait une vision claire de ce que devraient être les choses. Donc c'est-à-dire en fait aller à l'inverse de la notion de l'idée d'un storyboard ou même d'un dessin dans les deux sens du terme, c'est-à-dire en fait d'essayer de se dire qu'on va être véritablement surpris par ce à quoi on va se confronter. Donc en gros, j'ai un peu mis de côté le dessin et puis la question de l'écriture au sens propre, j'essaie de la réserver à une phase qui est presque technique, c'est-à-dire en gros que effectivement ce qui va m'intéresser, c'est la rencontre avec effectivement des corps, des personnes, un paysage, un lieu. Tout ça va définir ensemble peut-être une sorte de territoire. On peut supputer qu'il y a des choses qui peuvent se passer entre ces corps, ces lieux. Et puis l'écriture va plutôt me servir en fait à quelque part essayer de clarifier en fait le cadre de sens et les rapports. C'est-à-dire, en fait, elle va me permettre peut-être de clarifier ma pensée. Mais j'essaye de faire attention que l'écriture ne devienne pas, en fait, qu'elle prenne le pas sur la rencontre entre ce qui va se passer réellement, qu'elle ne puisse pas anticiper, en fait, ce qui va se passer réellement entre les corps, les paysages, tout ça, quoi.
Est-ce que vous avez besoin d'une sorte de discipline pour ces phases de gestation où vous êtes en écriture, justement? Et si oui, à quoi elle ressemble?
Mais en fait, oui, quand même, d'une certaine façon, oui, parce que en fait, j'aime bien, ça va peut-être aller en contradiction avec ce que je viens de dire, mais j'essaye en tout cas de ne pas anticiper trop ce qui va se passer entre des gens, un lieu, etc. Puis en même temps, j'ai besoin aussi, effectivement, de préparer cette phase, en fait, qui, d'une façon ou d'une autre, est une phase où je clarifie moi-même dans ma tête, et donc avec, comme je le disais un peu techniquement, avec des textes et des trucs comme ça, mais le cadre de sens que j'essaye de construire autour de ces gens, de ces lieux que j'aimerais filmer, quoi. Et donc pour ça, j'ai besoin quand même de ne rien faire. C'est-à-dire en gros, enfin de rien faire. En tout cas d'avoir du temps où je n'ai pas forcément 1000 choses à prendre en charge. Donc oui, ce temps-là, il est important. C'était en fait, je crois que c'est des temps un peu d'ennui aussi, quelque part. En fait, des temps de... Puis des moments de effectivement, quand même d'écriture réelle. Hein, donc c'est-à-dire en fait de se retrouver devant un ordinateur. Et puis j'aime bien mon bureau chez moi. C'est un endroit où je me sens bien. Et je peux passer des heures à écrire un texte, et puis me lever, et puis aller déplacer des objets. Enfin, en général, c'est ce que je fais, quoi. Donc je refais un peu la déco, puis je remets les choses en place 10 minutes plus tard, parce qu'en fait, ça n'avait pas beaucoup de sens ce que je viens de faire. Mais c'est juste une façon de... j'essaie de déplacer les problèmes, quoi. Et ça peut prendre pas mal de temps. Et c'est quelque chose que j'aime bien, parce que c'est quelque chose qui me permet de me préparer, en fait, quelque part, et de creuser, en fait, les questions autour duquel je tourne. De me mettre dans cet état-là me permet d'être plus tard dans un état de disponibilité réelle quand je serai confronté à la réalité des choses, quoi. Il faut aussi être clair, c'est que je... D'une certaine façon, j'aime aussi imaginer des histoires et j'aime aussi en fait imaginer des structures. Je l'ai toujours fait. J'essaie de trouver le point d'équilibre entre la disponibilité au réel, à l'inattendu, à ce qui va se produire et qu'on peut pas anticiper, et en même temps des choses qui sont de l'ordre d'une structure narrative que je vais quand même mettre en place, une sorte de cadre de sens, d'image ou de sensation. C'est de faire en sorte que la structure soit pas trop forte. Parce que si la structure, enfin ce que j'aurais préparé est trop fort, ça risque d'écraser en fait le vivant. Et en même temps, si c'est trop faible, il se passera peut-être rien. C'est un petit peu dans cette espèce de tension-là que les choses se passent, quoi. Alors, par exemple, là, en fait, on va tourner en juin un film qui est une sorte de suite, si on peut dire. Enfin, c'est pas une suite, c'est ce qu'on appelle un spin-off. Enfin, un spin-off autour de deux personnages qu'il y avait dans L'autre Lorenz, les deux policiers. Qui était joué par Rodolphe Burger et Francis Soutens. Et on va tourner. Putain, il y a des flics qui passent. Ça tombe bien. Voilà. Hop. C'était Rodolphe et Francis. Donc, on va tourner un film autour de ces deux personnages-là. Donc, toute la question, c'était de savoir comment on allait faire. Et moi, j'ai l'intuition que ce qu'il fallait faire avec ces deux personnages-là, c'était de leur laisser faire ce qu'ils savent faire le mieux, c'est-à-dire, en fait, improviser. Parce qu'en fait, pendant tout le tournage de L'autre Lorenz, les scènes, en fait, pour Francis et Rodolphe, n'étaient pas des scènes qui étaient véritablement écrites. Et j'avais plutôt imaginé une sorte de sujet de discussion, on va dire. Et là-dessus, ils inventaient un peu en direct les choses. Et puis, on sculptait un peu les dialogues de prise en prise, quoi, on va dire. Ce qui est une forme d'écriture aussi. On est lagué. Mais en gros, ils étaient tellement bons que en une prise ou deux, les choses étaient faites. Donc, c'était un peu une mine d'or. Et puis, donc je me suis dit, il faut continuer à creuser cette mine, quoi. Donc, on met en place ce nouveau contexte. Et ce contexte, c'est ces deux personnages-là qui sont placardisés en Alsace, parce que Rodolphe Burger est originaire d'Alsace. Et il se retrouve à devoir surveiller une sorte de foire aux minéraux, en fait, qui a lieu véritablement là-bas en Alsace une fois par an, qui s'appelle Gemmen Mineral. Et là, il y a des diamants, des gemmes, enfin, tout ce qu'on peut imaginer, des minéraux qui sont vendus, achetés, etc. Et là, donc, nos deux personnages, ils vont gardienner ce truc, et puis il y a une pierre qui va être volée, et puis en fait, ça va être le prétexte à une sorte d'enquête. Qui sera une enquête un peu molle, ça va ressembler un peu au bijou de la Castafiore, il se passe pas grand-chose. Et c'est un peu un prétexte pour développer ces deux personnages-là, leur donner toute leur... leur permettre de développer toute leur palette et de faire quelque chose que j'aime bien, que j'avais un tout petit peu mis de côté dans justement L'autre Lorenz, c'est-à-dire en fait un projet qui s'écrit, qui s'invente, en fait, au jour le jour. Donc ce que j'essaye de faire pour l'instant, c'est de réfléchir à ce contexte, de comprendre en fait quels sont les ingrédients que je vais mettre en place pour que cette écriture qui va avoir lieu en direct puisse avoir lieu. Quelque part, mon travail actuellement, c'est d'arriver à trouver les bons ingrédients qui vont faire en sorte que cette vigne va pouvoir prendre, quoi. Et c'est pas si évident que ça, parce que c'est bon, voilà, il y a Rodolphe et Francis, ça c'est formidable, il y a deux ingrédients les plus de qualité que nous avons, puis il y a le contexte, il y a cette foire aux minéraux, il y a ce village en Alsace que j'ai été visiter quelques fois, donc ça je vois exactement ce qu'il ressemble, c'est très bien. Et puis il y a tous les autres personnages, on va dire, qui vont devoir s'inscrire là-dedans. Et là, toute la question, c'est un peu de comprendre, en fait, quel équilibre il faut trouver, quelle est la bonne balance, pour qu'en même temps, on raconte quelque chose qui puisse avoir du sens, qui puisse être en même temps poétique, drôle, mais en même temps qui ne vire jamais du côté de quelque chose de trop, qui serait un peu trop trivial, trop grotesque, trop bête. Donc ça passe par donc des phases d'écriture réellement, enfin c'est-à-dire que où j'écris sorte de, on va dire, de traitement, de bloc de scène, mais sans jamais écrire les dialogues, parce que ça je m'y refuse un petit peu quand même. Et puis ça passe aussi par une réflexion et puis par des rencontres, qui je vais leur mettre en relation avec Francis et Rodolphe. C'est une phase qui est pas forcément évidente, parce qu'elle c'est véritablement ici dans ces choix que je vais opérer, dans le canevas en fait quelque part. De l'histoire qui va se dessiner, que tout va se faire, quoi. C'est-à-dire que si quelque part je me trompe un petit peu à cet endroit-là, on peut vite faire en sorte que l'équilibre, en fait, que je cherche ne fonctionne pas, quoi. Donc c'est une écriture avec le réel, c'est une écriture avec le vivant, c'est une écriture qui comporte aussi un peu de la structure, de la préparation. C'est un peu tout ça ensemble. C'est une sorte d'écriture un peu fragile, quoi, qui est censée faire en sorte que quelque chose se passe.
Quand vous êtes en phase de création comme ça, est-ce que c'est quelque chose qui vous obsède? Est-ce que vous avez le sentiment de vivre avec vos personnages? Est-ce que ça peut vous réveiller la nuit? Quelle place ça prend dans votre vie?
Ça me réveille pas la nuit, en fait, sauf vraiment quand... Enfin, ça peut le faire, oui, ça peut réellement me réveiller la nuit, littéralement. Mais c'est plutôt véritablement quand je suis dans le travail de... Par exemple, quand je suis en création de théâtre, ce qui m'est arrivé encore il y a pas très longtemps, en septembre, on a inventé le scénario aussi en même temps qu'on me répétait. On était sur un gros morceau, et là, véritablement, ça me réveille la nuit, oui. Et donc, parfois, j'avais des illuminations, entre guillemets, la nuit. Mais c'est surtout qu'en fait, j'essayais de résoudre le problème. Tout mon esprit se trouve concentré sur cette... la problématique de cette structure, ou de comprendre comment, en fait, résoudre l'équation. Et ben, du coup, effectivement, parfois, on se réveille au milieu de la nuit et on commence à écrire des choses. Mais il n'y a pas un jour, il n'y a pas une demi-journée, il n'y a pas... Enfin, oui, je pense tout le temps, en fait, en réalité, à ces histoires que je mets en place. Et en réalité, je pense, j'ai envie de dire, très souvent, au moins à une ou deux histoires en même temps. Je sais que je pense tout le temps à ce qui va se passer avec Rodolphe et Francis, et j'essaie de... Et ils sont là avec moi toute la journée, même quand je fais autre chose. Donc ça m'occupe. Et puis je pense aussi à un autre projet, puisque j'ai un autre projet de... je voudrais me lancer dans un autre projet d'écriture, mais au sens plus traditionnel, c'est-à-dire effectivement avec une écriture de scénario, quelque chose de plus construit, en tout cas dans un premier temps. Pour l'instant, je tourne encore un peu autour de différents sujets potentiels. Donc j'en ai plusieurs sous le... J'en ai au moins trois. Je passe de l'un à l'autre en me disant c'est peut-être celui-là, ah non c'est pas ça, peut-être c'est peut-être celui-là, et j'y vais à tâtons, quoi. Je suis pas sûr encore d'avoir trouvé le truc.
Justement, qu'est-ce qui fait l'étincelle, qui fait qu'une idée se transforme en histoire et puis aboutit sur un projet sur lequel vous travaillez pendant de longs mois, j'imagine?
Ouais, ah ben ça c'est compliqué de... qu'est-ce qui fait l'étincelle? Mais je ne sais pas, parce qu'en fait, il y a des évidences, et parfois une évidence, c'est, comme je le disais, c'est parfois une rencontre avec quelqu'un, ou c'est la découverte d'un lieu. Ouais, c'est souvent ça, en fait. Quand il y a eu des évidences, des étincelles, c'est parce qu'il y avait un lieu, une personne, un sujet, peut-être moins, parce que les sujets, c'est peut-être plus vague. Enfin, ou alors la personne devient un sujet, quoi. Mais souvent, quand la personne était le sujet de l'affaire, oui, là, il se passe des choses. Là, pour l'instant, comme je suis sur différentes matières différentes, eh bien, je ne sais pas ce qui va créer l'étincelle. J'ai l'impression que la solution, elle est peut-être un peu entre différents projets. Enfin, je veux dire qu'elle est peut-être pas sur... Là, pour l'instant, j'en ai deux, trois comme ça, et qui sont des sujets qui sont assez précis. Ils me paraissent tous les trois bien. J'ai pas de... Peut-être qu'il me manque effectivement une étincelle pour être sûr que... Mais peut-être c'est aussi parce que qu'est-ce qu'il me faudra, je ne sais pas. En fait, en réalité, c'est le sujet qui m'intéresse en ce moment, c'est un rêve que j'ai fait il y a quelques années, je crois. C'est une chose qui m'est jamais arrivée. J'ai rêvé d'un film. C'est-à-dire qu'en réalité, je me suis réveillé le matin Et j'ai noté ce rêve qui était véritablement un film. C'est-à-dire qu'il y avait un début, un milieu, une fin, une histoire. Enfin, il y avait tout un développement. Il y avait un truc qui était incroyable. C'était très cohérent. Il y avait un personnage principal. Et il lui arrivait tout un tas de choses. Bien sûr que ces choses étaient assez étranges et parfois bizarres. Mais il y avait une cohérence. Et même si je ne comprenais pas tout, en fait, de ce rêve, même s'il y avait pas mal de choses qui m'échappaient, ça me paraissait étonnamment cohérent. Donc, j'ai noté. J'ai laissé ça de côté. Et puis, j'ai ressorti ça d'un tiroir il y a quelques mois. Et j'ai relu ce truc en me disant, ah, c'est quand même incroyable ce truc. Il y a quelque chose avec ça, quoi. Comme j'étais en train de me poser ces questions de savoir sur quoi je vais travailler, j'ai commencé à réinterroger cette matière-là, enfin, cette espèce de rêve que j'avais fait. Et j'ai écrit à une personne qui s'appelle Paco Mtielman, qui est un écrivain. Qui a écrit des trucs assez étonnants, qui est quelqu'un enfin, totalement brillant, qui a écrit des livres sur David Lynch, qui a aussi, enfin, tout un tas de choses sur le cinéma, et puis des essais sur des thématiques qui tournent souvent à autour de l'ésotérisme, des matières, en fait, assez intéressantes, et puis qui a aussi une chronique sur Blast, enfin, voilà, quelqu'un d'assez passionnant. Et je lui ai écrit un mail en lui disant, voilà, est-ce qu'on pourrait se rencontrer? J'ai fait un rêve. Je voudrais vous en parler, voir ce que vous en pensez. Et en fait, il m'a répondu. Il m'a dit, oui, on peut se voir. Et puis, on s'est donné un rendez-vous. C'était en juin passé. Et on s'est vu dans un café. Et donc, un peu comme si j'allais voir un psychanalyste. Ouais. Je lui ai raconté le rêve. Et je lui ai demandé ce qu'il en pensait. Et il m'a dit que c'était super. Il m'a dit, c'est le rêve te dit quelque chose, c'est précieux. Et je lui ai demandé, est-ce que tu penses qu'il y a un scénario là-dedans? Est-ce qu'il y a un film là? Il m'a dit, oui, je suis convaincu qu'il y a un film à faire là-dedans. Et puis il m'a donné quelques clés de compréhension, quelques clés d'interprétation du rêve que j'ai trouvé assez intéressantes. Et voilà, je suis parti avec c'est comme si quelque part il avait un peu valider cette première intuition que j'avais autour de ce scénario de film, peut-être. Et donc, je lui ai demandé, mais est-ce que ça t'intéresserait de coécrire ce scénario, éventuellement? Alors, il m'a dit non, parce que à un moment, je risquerais de mettre trop mes mains là-dedans, et ce serait plus cohérent par rapport à quelque chose qui t'appartient, en fait, en réalité. Et j'ai trouvé ça tout à fait juste. Et donc, voilà. Et donc, je me retrouve de nouveau avec cette matière. Je ne sais pas ce que je vais en faire. Peut-être que je vais véritablement l'écrire. Mais c'est encore en questionnement.
Alors, on va rester dans votre psyché. J'ai une dernière question pour vous, Claude. Mm-hmm. Pourquoi écrivez-vous?
Pourquoi j'écris? J'écris... au sens large, j'écris parce que... je raconte plutôt. Puisqu'encore une fois, j'ai l'impression que l'écriture chez moi prend des formes très différentes. Mais je crois que je raconte... Je tente de raconter par le réel ou par l'écriture, enfin à proprement parler, effectivement, ou par des morceaux d'écriture et des confrontations avec le réel, les autres, parce que j'ai l'impression que c'est ce qui peut-être me permet de créer du sens, en fait, de donner du sens à cette vie étrange qui nous est donnée à vivre. C'est-à-dire qu'en fait, je pense que c'est sans doute ce que l'humain arrive à faire de mieux, en réalité. C'est ce qui fait que nous sommes des humains, et sans doute pas des animaux, c'est que des animaux un petit peu différents, c'est que nous parvenons à nous raconter, quoi. Nous nous représentons, et c'est en nous représentant, que nous nous racontons, qu'on arrive à peut-être créer un peu de sens, en fait, à cette vie. Moi, je trouve en tout cas que c'est sans doute la chose la plus sensée à faire. Une fois qu'on s'est nourri, qu'on s'est habillé, qu'on a trouvé un toit, évidemment, qu'est-ce qu'on peut faire d'autre à part se raconter, quoi. Donc voilà, il y a ce nourrir. Et de toute façon, c'est ce que je pense, c'est ce que l'humanité a fait, me semble-t-il, dès ses origines. Ils se sont racontés des histoires autour du feu, quoi. Donc, c'est ce que je perpétue, bêtement. Et en fait, je trouve ça formidable. Je trouve que c'est la chose la plus belle à faire, se raconter. Raconter ce que nous sommes, raconter, donner du sens, essayer de s'inventer un sens. Inventer un sens. Et en fait, c'est véritablement ça. C'est même pas donner du sens, c'est en inventer. C'est vraiment un acte de création, quoi. C'est-à-dire que intrinsèquement, tout ça n'a sans doute aucun sens, mais c'est beau d'en inventer un. Voilà. Et en fait, il y en a qui croient en Dieu, puis il y en a qui croient dans les histoires. En fait. Voilà. Moi, je crois dans les histoires.
Merci beaucoup, Claude.
Avec plaisir.
Merci mille fois à Claude Schmitz de nous avoir confié ces rituels. Et merci à vous de les avoir écoutés. Si vous les avez aimés, n'hésitez pas à les partager, les commenter, les liker et leur mettre plein de belles étoiles. Dans le prochain épisode, rendez-vous avec Paloma Sermondaï,